Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une vision du corps humain qui est radicalement différente de ce qu'on connaît. Oubliez la machine biologique, les schémas anatomiques, on va explorer le corps comme un paysage intérieur, un vrai microcosme de l'univers. Notre guide pour ce voyage, c'est un ouvrage de Romain Gourmand, « Voyage dans les cartes du corps daoïste ». Il traduit et commente quatre cartes anciennes, qui sont conçues non pas pour se repérer, mais pour se transformer. Alors, déballons tout ça. L'idée même de cartographier son propre corps comme un pays à explorer, avec ses montagnes, ses rivières, c'est juste captivant.
C'est une excellente façon de le dire. Et c'est crucial de comprendre dès le départ que ces cartes, elles ne cartographient pas la même réalité que nos atlas d'anatomie. Elles ne montrent pas où est le foie, physiquement. Plutôt la fonction, l'énergie, le rôle symbolique du foie dans ce cosmos intérieur. Ce sont des guides pour ce qu'on appelle l'alchimie interne, le Neidan. Le but, ce n'est pas de localiser des organes, non, et d'harmoniser les énergies vitales pour atteindre une unité avec le principe de l'univers.
Une unité avec le principe de l'univers, c'est un objectif ambitieux. Pour comprendre comment ces cartes y mènent, il faut sans doute commencer par la base. Le texte parle tout le temps du Dao. On croit connaître le mot, mais de quoi s'agit-il vraiment dans ce contexte?
Alors oui, c'est le point de départ indispensable, le Dao, qu'on traduit souvent par la voie ou le chemin. C'est ce principe ineffable qui engendre tout. Mais plutôt qu'une longue définition, l'idéogramme lui-même, Dao, est incroyablement parlant. Il combine le radical du mouvement, « je », avec celui de la tête, « shou ». L'image qui en sort, c'est celle d'une marche. Une marche entreprise par un sage, un processus où le regard est tourné vers soi-même pour trouver sa propre voie.
Ah oui, et ce qui est fascinant, c'est que le mot a ce double sens en chinois, voie, mais aussi expliquer ou dire. Donc ce n'est pas une destination, mais plutôt le fait même de cheminer, et de le faire en regardant à l'intérieur. C'est déjà un changement de perspective fondamental. Et dans ce cheminement intérieur, l'autre terme qui revient sans cesse, c'est le qi, l'énergie. Mais là encore, le texte nous prévient, il y a « chi » et « chi ».
Absolument. Et ça, c'est un point clé pour comprendre toute l'alchimie interne. Il y a deux graphies. D'abord, le « qui » écrit « qui ». Ça, c'est l'énergie du ciel postérieur. C'est l'énergie du monde manifesté, celle qu'on acquiert après la naissance, par la respiration, la nourriture.
L'énergie de la vie quotidienne, en quelque sorte.
Exactement. C'est celui qu'on connaît le plus.
D'accord. Et l'autre ?
L'autre, c'est le « qui » écrit « que ». C'est l'énergie du ciel antérieur, le souffle originel, immatériel, la vitalité pure qui nous est donnée avant même la naissance. C'est cette énergie primordiale que les pratiques cherchent à retrouver, à raffiner.
D'accord.
D'ailleurs, l'idéogramme « que » est une véritable instruction en soi. Il est composé du radical du feu, « roi », sous un personnage, « gu », qu'on peut voir en position de méditation.
Du feu. Sous quelqu'un qui médite, on dirait presque une recette.
Mais c'est exactement ça. Ça symbolise une transformation par la chaleur, un processus alchimique interne, où l'on cuit les énergies pour les purifier. On utilise le feu de la conscience pour transformer le chi grossier et retrouver la pureté du chi originel. Le symbole est un mode d'emploi.
Avec ces concepts en tête, le Dao et le chi, on peut maintenant aborder les cartes. La première, la Neijing Tu. La carte du paysage intérieur. Elle a l'air d'être la plus poétique.
Ah oui, elle est stupéfiante. Vraiment. Parce qu'elle redessine complètement notre perception du corps. Elle le transforme en une topographie sacrée, vivante. La tête, par exemple, ce n'est plus une boîte crânienne. Ça devient la montagne sacrée Kunlun.
Kunlun.
Oui, le sommet de l'axe du monde. Et au centre, on trouve un lac, le Palais des Lumières. Plus bas, la trachée est une pagode à 12 étages, et l'abdomen, c'est le fameux champ de cinabre, le Dantian, un océan d'énergie.
C'est une manière de rendre le corps étranger à nous-mêmes pour mieux le redécouvrir. Ce n'est plus une collection d'organes, mais une géographie sacrée. Et ce paysage, il est habité, c'est ça?
Oui, et c'est là que la carte devient une histoire. Les habitants sont des figures allégoriques qui représentent les fonctions des organes, des énergies. Dans le champ de cinabre, en bas, on trouve le bouvier qui laboure son champ. Il représente le travail de la rate, l'élémentaire, qui cultive la nourriture. Et plus haut, près du diaphragme, on voit la tisserande céleste à son métier à tisser. Elle symbolise le foie, qui gère la circulation du ki et tisse les fils de nos émotions.
Attendez, le bouvier et la tisserande, mais... C'est une des plus célèbres légendes chinoises, les deux amants séparés par la voie lactée.
Précisément. Et cette mythologie cosmique est transposée à l'intérieur même du corps. Ces deux personnages, ce sont des pôles énergétiques qu'il faut réunir. Et comment on les réunit ? La légende dit qu'un pont de pied se forme.
Oui.
Eh bien, dans la pratique alchimique, le fait de coller la langue au palais crée ce pont des pieds. Ça unit les deux grands méridiens d'énergie du corps et ça permet aux énergies du bouvier et de la tisserande de s'unir enfin.
C'est incroyable. Donc, une simple posture physique, presque anodine, c'est la clé pour recréer une union mythologique à l'intérieur de soi. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une instruction pratique.
C'est tout l'esprit de l'alchimie interne. Le symbolique et le physiologique sont indissociables. Le geste a une résonance mythologique et le mythe informe la pratique. On trouve aussi un jeune enfant près du cœur qui enfile des perles pour former la grande ours. Ça symbolise la connexion de l'esprit à l'universel.
Donc si la Nei Jing Tu, c'est ce paysage riche, comment on le parcourt? Quel est le but concret de ce voyage?
Le but, c'est la transformation de ce que les taoïstes appellent les trois trésors. Le Jing, l'essence vitale, le Qi, l'énergie, et le Shen, l'esprit. L'idée, c'est de raffiner le Jing en Qi, puis le Qi en Shen, pour à la fin unir le Shen au Dao.
D'accord.
Et pour guider ce processus, il y a une autre carte, la Xiu Zhen Tu, carte de la culture de la perfection. Elle agit comme un itinéraire beaucoup plus structuré.
Moins un paysage poétique et plus une feuille de route alors, une sorte de GPS spirituel.
On peut voir ça comme ça, oui. Elle est moins imagée mais plus technique. Elle détaille les canaux, les passages énergétiques. On y voit très clairement les trois barrières le long de la colonne vertébrale, des points cruciaux. Le défilé caudal en bas du dos, qui enserre l'épine entre les omoplates, et l'oreiller de jade à la base du crâne.
Et ça, ce ne sont pas des blocages physiques, j'imagine, mais plutôt des verrous énergétiques à ouvrir.
Exactement. Ce sont des zones où le chi a tendance à stagner, à se bloquer. La carte montre le chemin de ce qu'on appelle la petite circulation céleste.
La petite circulation céleste.
Oui. L'énergie monte le long de la colonne en franchissant ses barrières et redescend par l'avant du corps. L'Axiu Zhen Tu, c'est le plan détaillé de cette autoroute énergétique.
D'accord, donc on a la carte du territoire, le paysage, avec la Nei Jing Tu et l'itinéraire principal avec la Xiu Zhen Tu. Mais comment on navigue? Quand accélérer, quand ralentir? Le texte mentionne une carte plus secrète, la Wuhu Tu.
Oui, la Wuhu Tu, ou carte du feu et du temps. Elle se concentre sur la méthode, le comment faire. Son principe, c'est le feu comme pivot, le temps comme mécanisme. Le feu, ça représente l'intensité de la pratique, la qualité de la concentration, la force de la respiration. C'est le moteur.
Et le temps ?
Le temps, c'est l'importance d'agir au bon moment, de synchroniser sa pratique avec les cycles naturels, cosmiques. D'ailleurs, la carte est couverte de références aux constellations, aux phases de la Lune, aux trigrammes du Yijing.
Ok, donc si je résume, pour être sûr de bien suivre, la Nei Jing Tu, c'est la carte du territoire, notre corps paysage.
C'est ça.
Et la Xiu Jin Tu, c'est l'itinéraire, le chemin.
Exact.
Et la Ruaro Tu, c'est la technique de navigation, le comment et le quand. C'est bien ça?
C'est une excellente synthèse. Chaque carte a une fonction précise. Territoire, itinéraire, méthode.
Mais il semble manquer une dimension. Cruciale même. On a le corps, l'énergie, le chemin, le timing, mais quid de l'état d'esprit? Des émotions? Si la tête est en ébullition, j'imagine que toute cette alchimie est impossible.
Vous mettez le doigt sur le fondement de tout. C'est l'objet de la quatrième carte, la Xin Xing Tu, la carte du cœur et de la nature. Elle est entièrement axée sur la psychologie spirituelle. Et pour ça, elle utilise une métaphore politique extraordinairement puissante. Le corps et l'esprit sont un royaume à gouverner.
Un royaume, comment ça fonctionne?
Dans cette métaphore, le cœur-esprit, le Xin, c'est le souverain de ce royaume intérieur.
D'accord.
Nos sens, la vue, l'ouïe, etc., ce sont ses ministres. Leur rôle, c'est d'informer le souverain.
Logique.
Le problème, c'est que les objets de ces sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, sont décrits sur la carte comme six voleurs qui peuvent piller le royaume.
Voleurs ? Hein ? C'est une image très forte. Ça veut dire qu'il faut se couper du monde extérieur comme un ermite ? Ou c'est plus subtil ?
C'est une excellente question. Et la réponse est plus subtile, oui. Il ne s'agit pas de se couper des sens, c'est impossible. Il s'agit de ne pas se laisser piller par eux. Si un ministre, Louis par exemple, rapporte une critique, un voleur, et que le souverain, la conscience, s'affole, perd le contrôle, alors le royaume est en chaos.
Ah oui, je vois.
Le but, c'est que le souverain reste clair, calme et aligné avec le Dao. Il écoute ses ministres, bien sûr, mais il ne se laisse pas déstabiliser par les voleurs. Il maintient l'ordre.
Donc sans une bonne gouvernance de l'esprit, tout le travail énergétique des autres cartes est inutile, voire même peut-être dangereux.
Précisément. Une énergie puissante dans un esprit chaotique ne peut mener qu'à la catastrophe. La pacification du royaume intérieur est la condition sine qua non de la transformation. C'est pour ça que cette carte est si fondamentale.
Alors que retenir de tout ça ? On est parti du Dao, ce principe universel, pour arriver à ces cartes d'une richesse incroyable, qui décrivent notre corps non pas comme une machine, mais comme un univers entier, avec sa géographie sacrée, ses habitants mythologiques, ses autoroutes énergétiques et même son propre gouvernement.
La grande synthèse, c'est que la vision daoïste du corps est profondément holistique. Le corps n'est pas un objet à réparer, mais un cosmos vivant à cultiver. Ces cartes sont des outils extraordinairement sophistiqués pour unifier ce qui, dans notre vision moderne, est souvent séparé, le corps, l'énergie et l'esprit. Elle nous montre une voie pour relier l'infiniment petit, l'humain, à l'infiniment grand, l'univers, en devenant l'artisan conscient de notre propre monde intérieur.
C'est une perspective vertigineuse. Pour finir, le texte se termine sur une phrase qui m'a marqué. Il dit que ces cartes pointent vers l'essentiel, sans jamais prétendre le contenir. Et ça soulève une question, je trouve, pour notre époque. À l'heure où on cartographie absolument tout avec une précision redoutable, de notre génome à nos trajets quotidiens, est-ce qu'on n'aurait pas paradoxalement perdu l'art d'explorer le seul paysage qui ne peut être quantifié mais seulement vécu, notre propre monde intérieur ?